Vie et aventure de Nicholas Nickleby. Chapitre 25. Concernant une demoiselle qui vient de Londres rejoindre la compagnie avec un vieil amateur qu'elle traîne à sa suite. Cérémonie touchante qui s'ensuit. Comme la pièce nouvelle était décidément un succès, elle fut annoncée pour tous les soirs de spectacle jusqu'à nouvel ordre, et l'on réduisit de 3 à 2 les jours de relâche par semaine. Nicolas toucha des témoignages plus solides encore de la faveur publique, car dès le samedi suivant, il empochait, par l'intermédiaire de l'infatigable Madame Gruden, la somme de 37 francs 50. Cette rémunération, qui n'était pas à dédaigner, n'était rien encore en comparaison de l'honneur et de la réputation qui s'attachaient à sa personne. Monsieur Curdle lui fit hommage d'une brochure de sa façon dédiée au théâtre, avec un autographe de sa main, trésor inestimable déjà par lui-même, qu'il consigna sur la couverture. Le tout accompagné d'une lettre pleine d'expression de son estime et de l'assurance spontanée qu'il serait heureux de lire avec lui Shakespeare pendant 3 heures tous les matins, avant le déjeuner, tout le temps de son séjour à Portsmouth. « Encore du nouveau, Johnson !» dit un matin M. Crumless dans un accès de joie. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Nicolas. « Le poney ?» Non, non, on n'en vient jamais au poney que quand on est à bout de ressources. Et j'espère bien que nous n'aurons pas besoin d'y recourir du tout cette saison. Non, non, il ne s'agit pas du poney. Un garçon phénoménal, peut-être. Non, monsieur, répondit Crumless d'un air sérieux. Il n'y a qu'un phénomène, et ce phénomène n'est pas un garçon, c'est une fille. C'est vrai, dit Nicolas. Je vous demande pardon de cette plaisanterie, mais alors je n'y suis plus du tout. « Qu'est-ce que vous diriez s'il nous venait une demoiselle de Londres ? Mademoiselle une telle du Théâtre Royal de Drury Lane. »« Je dirais qu'elle ferait merveille sur l'affiche. »« Vous avez mis le doigt dessus, » dit Monsieur Crumless. « Mais vous pourriez ajouter qu'elle ne fera pas moins d'effet sur la scène sans craindre de vous tromper. »« Tenez, regardez-moi cela, et vous me direz votre façon de penser. » En même temps, il déploya aux yeux de Nicolas une affiche rouge, une affiche bleue, une affiche jaune, en tête desquelles on voyait en caractère gigantesque l'annonce suivante. Début de l'incomparable Miss Petowker du Théâtre Royal de Drury Lane.
Tiens, dit Nicolas, mais je connais cette dame-là.
En ce cas, vous pouvez vous flatter de connaître le plus beau talent qu'ait jamais possédé une jeune personne, repartit M. Crumless, roulant les affiches. Un talent, cependant, d'un certain genre.
D'un certain genre.
La goule ou la buveuse de sang, ajouta M. Crumless avec un soupir prophétique. La goule n'aura qu'un temps. Elle ne survivra pas à Mademoiselle Petowker.
C'est la première sylphide à moi connue que j'ai vu se tenir droite sur une jambe en roulant du tambourin de l'autre genou. Une vraie sylphide.
Et quand l'attendez-vous ? Demanda Nicolas.
Aujourd'hui même. C'est une vieille amie de Madame Crumless. Madame Crumless l'a devinée de bonne heure. Il n'y a personne comme elle pour cela.
C'est elle qui lui a appris presque tout ce qu'on sait. C'est Madame Crumless qui a été la première buveuse de sang.
Comment ? « En vérité ?
Certainement, mais elle a été obligée d'y renoncer. »«
Elle s'en est lassée ?»«
Non, c'est le public. Personne ne pouvait y résister. Elle faisait frémir. Ah, vous ne connaissez pas encore sa capacité. »
Nicolas se hasarda à dire qu'il la connaissait bien.
« Non, non, c'est impossible, » dit M. Crumless. « C'est impossible, voyez-vous. Son pays ne la connaîtra que quand elle ne sera plus. » Chaque année de sa vie fait écarter quelques talents nouveaux chez cette femme étonnante. Voyez, mère de 6 enfants, dont 3 vivants, tous artistes dramatiques.
C'est extraordinaire, cria Nicolas.
Ah oui, c'est extraordinaire, allez,
reprit Monsieur Crumless, prenant avec complaisance une prise de tabac et secouant la tête d'un air grave. Si je vous disais que moi-même j'ignorais qu'elle sut danser jusqu'à son dernier jour de bénéfice où elle jouait Juliette et Hélène MacGregor, ce qui ne l'empêchait pas de danser dans les entr'actes la bourrée écossaise sur la corde roide. La première fois que j'ai vu cette femme admirable, Johnson, continua Monsieur Crumless en approchant sa chaise pour lui parler de plus près sur le ton d'une confiante amitié. Elle se tenait toute droite sur la tête au bout d'une pique, entourée de feux d'artifice.
Vous m'étonnez ? Dit Nicolas.
Je crois bien, elle m'a étonné moi-même, ajouta Monsieur Crumless de l'air le plus sérieux du monde. Tant de grâce et tant de dignité, tout ensemble. À partir de ce moment-là, je suis devenu son adorateur. L'arrivée de l'objet de ses éloges mérités vint brusquement mettre un terme au panégyrique de Monsieur Crumless. Presque aussitôt après, Maître Percy Crumless entra avec une lettre venue par la poste et adressée à sa gracieuse mère. Madame Crumless n'eut besoin que d'en voir la suscription pour s'écrier aussitôt « D'Andriette Petowker sur ma parole !» Et en même temps, elle se plongea dans cette lettre intéressante.
« Eh bien, eh !» demanda Monsieur Crumless. « Oui, oui, tout va à merveille !» répondit-elle avant d'avoir laissé Monsieur Crumless achever sa question. « J'en suis bien contente pour elle !»
« C'est bien en effet la plus heureuse aventure que j'ai jamais vue !» dit Monsieur Crumless. « Et alors ?» Et alors Monsieur Crumless, Madame Crumless et Maître Percy Crumless tombèrent tous les trois dans un fou rire. Nicolas les laissa s'en donner à cœur joie et retourna chez lui, sans se rendre compte du rapport mystérieux qu'il pouvait y avoir entre Mademoiselle Petowker et cet accès de gaieté, et songeant à l'extrême surprise de cette demoiselle quand elle apprendrait son enrôlement soudain dans une profession dont elle était elle-même une des glorieuses colonnes. Mais à cet égard, il était dans une profonde erreur. En effet, soit que M. Vincent Crumless eût préparé la voie, ou que Mademoiselle Petowker eut quelque raison particulière de le traiter avec encore plus d'amabilité qu'à l'ordinaire, leur entrevue le lendemain au théâtre eut plutôt l'air de la rencontre d'une paire d'amis intimes, qui ne se sont jamais quittés depuis leur enfance, plutôt que d'une reconnaissance passagère entre un monsieur et une dame qui se sont vus seulement une douzaine de fois, et encore par pur hasard. Miss Petowker, bien au contraire, commença par lui dire à l'oreille qu'elle n'avait pas dit un mot de Kenwigs à la famille Crumless, et qu'elle avait fait remonter leurs connaissances réciproques à leurs fréquentations respectives, des cercles les plus distingués et les plus à la mode. Et comme elle voyait Nicolas accueillir cette confidence avec une surprise qui n'était pas jouée, elle ajouta, avec un coup d'œil des plus aimables, qu'elle avait voulu se créer ainsi des titres à son obligeance et qu'elle comptait la mettre à contribution avant peu. Nicolas eut l'honneur le soir même de jouer dans une petite pièce avec Miss Petowker. Il ne put s'empêcher de remarquer qu'elle n'était guère applaudie avec chaleur que par un parapluie obstiné des secondes loges. Il remarqua bien aussi que l'enchanteresse lançait de temps en temps un regard fascinateur du côté même d'où partaient les bravos. Et, à chaque coup d'œil nouveau, le parapluie répondait par un nouveau trémoussement. Il y eut même un moment où il crut voir, dans le coin qui était le point de mire des yeux de Mademoiselle Petowker, une forme de chapeau qui ne lui était pas tout à fait inconnue. Mais occupé qu'il était de son rôle dans la pièce, il ne fit plus attention à ce détail et l'avait même complètement oublié quand il rentra chez lui. Il venait de se mettre à table pour souper avec Smic quand une personne de la maison frappa à sa porte et lui annonça qu'il y avait en bas un monsieur qui désirait parler à Monsieur Johnson.
« Eh bien, en ce cas, il n'a qu'à monter. Ce n'est pas plus difficile que cela, » répliqua Nicolas.
« Sans doute un camarade qui a faim, Smic. » Smic regarda le morceau de bœuf froid, calculant sans rien dire ce qu'il en fallait garder pour le dîner du lendemain, et remit dans l'assiette une tranche qu'il avait déjà coupée pour lui, pour réparer la brèche que le visiteur allait sans doute faire à leur propriété. « Il faut que ce soit quelqu'un qui n'est pas encore venu ici, » dit Nicolas, « car je l'entends trébucher à chaque marche. Entrez, entrez !»«
Il n'est pas Dieu possible, Monsieur Lillivic !»
C'était lui. C'était le percepteur des taxes aquatiques qui regardait Nicolas d'un œil fixe et d'un air impassible. Il lui donna une poignée de main avec la majesté la plus solennelle et prit un siège au coin du feu.
Hé ! Dit Nicolas, vous ici et depuis quand ?
Depuis ce matin, monsieur.
Ah, je comprends alors, vous étiez au théâtre ce soir et c'était votre part,
mon parapluie. Le voici en personne. » Et Monsieur Lillivic présentait un gros parapluie de coton dont la pointe en fer était bien avariée.
« Qu'est-ce que vous dites du spectacle ?»«
Autant qu'on peut juger de la scène, il me semble qu'il a été agréable. »«
Agréable ? » cria le percepteur. « Vous pouvez dire hardiment, monsieur, qu'il était délicieux. »
Monsieur Lillivic, en même temps, se pencha en avant pour prononcer le dernier mot avec plus d'énergie. Puis, il se redressa, fronçant le sourcil et remuant la tête.
« Ah !» dit Nicolas, un peu surpris de ces symptômes d'approbation délirante. « Oui, c'est une habile femme !»«
C'est une divinité !» répliqua Monsieur Lillivic en donnant du bout de son susdit parapluie un toc-toc de percepteur sur le plancher.
« Vous pouvez croire, monsieur, que j'ai déjà connu plus d'une actrice divine. C'était moi qui allais percevoir, c'est-à-dire qui allais voir, qui allais souvent voir si je pouvais percevoir le montant de la taxe chez une dame actrice qui a demeuré plus de 4 ans dans ma circonspection.
Mais jamais, non, monsieur, jamais de toutes ces divines créatures, actrices ou non, je n'en ai vu de plus divine que Miss Henriette Petowker. »
Nicolas eut bien de la peine à s'empêcher de rire. Il se garda bien de dire un mot. Il se contenta, pour toute réponse, de rendre chaque fois à M. Lillivic ses signes de tête et de rester silencieux.
« Je voudrais vous dire un mot en particulier, » dit M. Lillivic. Nicolas regarda Smic, qui comprit son désir et disparut.
« Ce n'est pas grand-chose qu'un célibataire, » dit M. Lillivic.
« Vraiment ?»
répondit Nicolas.
« Certainement, » reprit le percepteur. « Voici bientôt 60 ans que je suis de ce monde. »«
Et je dois savoir ce qu'il en est. »
« Qu'ils doivent le savoir, » pensa Nicolas. « C'est positif. Mais qu'ils le sachent, c'est une autre question. »
« Si un célibataire a eu le bonheur de mettre de côté un peu d'argent, » dit Monsieur Lillivic, « ses frères et sœurs, neveux et nièces, pensent à cet argent beaucoup plus qu'à lui. Fût-il lui-même, en raison de son caractère public, le chef de la famille, et pour ainsi dire, le grand canal où débouchent tous les petits tuyaux. Ils ne font que souhaiter sa mort tout le temps, et rien n'empêche leur découragement quand ils le voient en bonne santé.
Et tout cela parce qu'il brûle d'hériter de son petit bien. Cela ne vous étonne pas, n'est-ce pas ?
« Oh, c'est vrai, trop vrai !» répliqua Nicolas. « La grande raison pour ne pas se marier, c'est que l'on craint la dépense. Et c'est là ce qui m'est revenu. »«
Autrement, parbleu !» dit M. Lillivic en faisant claquer ses doigts. « J'aurais pu avoir 50 femmes !»«
De belles femmes ?» demanda Nicolas.
« Oui, monsieur, de belles femmes. Je ne dis pas d'aussi belles qu'Henriette Petowker. Celle-là n'est pas un modèle ordinaire. »
Mais des femmes enfin, telles que tout le monde ne peut pas se flatter d'en rencontrer tous les jours sur son chemin.
Maintenant, supposez qu'un homme épouse une fortune, non pas précisément avec sa femme,
mais dans sa femme même.
Diantre ! Mais alors, répliqua Nicolas, cet homme-là n'est pas à plaindre ?
C'est justement ce que je me dis, répliqua le percepteur en lui caressant par amitié la tête avec le manche de son parapluie.
« C'est justement ce que je me dis. » Henriette Petowker, la fameuse Henriette Petowker, a par elle-même une fortune dans son talent. Et je vais...
« En faire Madame Lillivic ?» dit Nicolas.
« Non, monsieur, non, pas Madame Lillivic, » repartit le percepteur. « Une actrice garde toujours son nom,
C'est la règle, mais enfin, je vais l'épouser. Et pas plus tard qu'après-demain.
Je vous en fais mon compliment, monsieur, dit Nicolas.
Merci, monsieur, continua le percepteur en boutonnant son gilet. Je toucherai ses honoraires, naturellement, et j'espère après tout que la vie n'est guère plus chère pour deux que pour un. C'est toujours une consolation.
Une consolation ? Vous n'avez aucun besoin de consolation dans un pareil moment.
Non, reprit monsieur Lillyvick, secouant la tête avec vivacité.
Non, vous avez raison.
Mais qu'êtes-vous venus faire ici tous les deux, si vous êtes sur le point de vous marier, monsieur Lillyvick ? Demanda Nicolas.
Voilà justement ce que je venais vous expliquer. La vérité est que nous avons jugé à propos de cacher notre mariage à la famille.
La famille ? Dit Nicolas.
Quelle famille ?
Vous savez bien, les Kenwigs.
Si par malheur ma nièce ou ses enfants en avaient entendu souffler le mot avant mon départ,
je les aurais vus tomber du haut mal à mes pieds. Et je ne m'en serais jamais tiré avant de m'engager par serment à ne jamais épouser personne. Sans cela, qui sait s'ils n'auraient pas fait nommer une commission d'enquête pour me faire interdire.
Le percepteur, à ces mots, tremblait encore de tous ses membres en songeant à toutes les horribles choses qu'on aurait pu lui faire.
« C'est vrai, dit Nicolas, ils auraient été jaloux, ce n'est pas douteux. »
« C'est pour éviter tout cela qu'Henriette Petowker et moi nous nous sommes convenus, entre nous, qu'elle viendrait ici, chez ses amis de les Crumbless, sous prétexte de s'enrôler dans leurs troupes, et que moi je quitterai Londres le lendemain pour aller la rejoindre à Guildford, dans la diligence. »
« C'est ce que j'ai fait, et nous sommes arrivés ensemble de Guildford hier au soir. À présent, si nous avons pensé à vous faire confidence de notre secret, c'est dans la crainte qu'en écrivant à M. Nudge, vous n'allassiez lui parler de nous. Nous partirons de chez les Crumbless pour la célébration du mariage, et nous serons charmés de vous voir, soit avant la cérémonie à l'église, soit après, au déjeuner, à votre choix.
Vous sentez, continua le percepteur qui tenait à éviter toute méprise sur ce point, que nous n'avons pas fait de folie, quelques rôtis et du café, avec des crevettes peut-être, ou quelque chose comme cela pour se régaler. Voilà tout.
Bon, je comprends, dit Nicolas. Je serai très heureux d'aller vous voir. J'accepte votre invitation avec le plus grand plaisir.
Où reste madame ? Chez les Crumbless ?
Non pas. Ils n'auraient pu la loger convenablement la nuit. Elle a préféré descendre chez une de ses connaissances qui déjà, avec une autre demoiselle, toutes deux artistes dramatiques.
Sans doute Miss Nevelici.
Précisément, c'est là son nom.
Ce sont ces demoiselles, je suppose, qui seront ses filles d'honneur.
Si c'était tout, dit le percepteur d'un air contrarié. Mais on veut lui en donner quatre. J'ai peur qu'on ne vise un peu trop à la mise en scène.
Oh que non ! Répliqua Nicolas,
qui avait toutes les peines du monde à déguiser son envie de rire sous une toupe naturelle.
Et quelles seront les quatre ?
D'abord Miss Nevelici, cela va sans dire, Miss Lidrook, puis le phénomène, dit en grognant le percepteur.
Cria Nicolas.
Excusez-moi, je ne sais pas ce que j'ai à rire comme cela ce soir.
Ma foi, ce serait très joli. Le phénomène.
Et puis après ?
Une autre demoiselle, je ne sais pas qui, répondit le percepteur, levant le siège. Quelqu'une autre amie d'Henriette Petowker.
À propos, je vous recommande bien de n'en rien dire à personne, n'est-ce pas ?
Soyez tranquille, répondit Nicolas.
C'est convenu.
Ne voudriez-vous pas, avant de partir, accepter quelque chose ?
Non, dit le percepteur. Je n'ai pas d'appétit. J'ai dans l'idée que ce doit être quelque chose de bien amusant que d'être marié.
Hein ?
Cela ne fait pas pour moi l'ombre d'un doute, répondit Nicolas.
Certainement, reprit le percepteur.
Certainement.
Oui, sans aucun doute.
Bonsoir.
Là-dessus, M. Lillyvick, qui, pendant tout le cours de son entrevue, avait montré, dans ses manières, le mélange le plus extraordinaire de précipitation, d'hésitation, de confiance, de doute, d'entraînement, de déception, d'abattement, de présomption, descendit l'escalier et laissa Nicolas rire tout seul à son aise, tant qu'il voudrait.
Sans nous arrêter à regarder si le jour suivant parut à Nicolas exactement composé d'une même nombre d'heures et de la même longueur qu'à l'ordinaire, nous demanderons la permission de remarquer au moins que les personnes qui avaient un intérêt plus direct dans la prochaine cérémonie trouvèrent qu'il s'écoula avec une rapidité prodigieuse. Ainsi, quand Miss Petowker s'éveilla le lendemain matin dans la chambre de Mademoiselle Snevellicci, elle ne voulut jamais croire qu'elle en fût déjà réellement au jour qui devait éclairer un si grand changement dans sa condition.
« Non, je ne le croirai jamais, » dit-elle. « Réellement, ce n'est pas possible. Vous aurez beau dire, je ne pourrai jamais me décider à consommer un pareil sacrifice. »
À ces mots, Mademoiselle Snevellicci et Mademoiselle Lidruck, qui savaient parfaitement qu'il y avait déjà 3 ou 4 ans que leur belle amie était décidée à faire de gaieté de cœur aussitôt qu'on voudrait ce terrible sacrifice, et qu'il ne lui avait manqué que la rencontre d'un monsieur un peu sortable pour le consommer, se mirent à lui prêcher le courage et la fermeté, à lui faire sentir combien elle devait être fière de se voir à même de faire à tout jamais le bonheur d'un objet digne de son choix. Combien il était nécessaire à la béatitude de l'espèce humaine en général que les femmes, en pareille occasion, s'amassent de courage et de résignation. Elles-mêmes, et toutes persuadées qu'elles étaient, que la véritable félicité consistait dans le célibat, qu'elles ne voudraient pas changer pour tout l'or du monde. Cependant, grâce à Dieu, si jamais elles devaient en venir là à leur tour, elles avaient l'espérance de connaître trop bien alors leur devoir pour s'y soumettre. Elles ne s'en soumettraient qu'avec plus de douceur et d'humilité de cœur à une destinée que la Providence leur aurait visiblement imposée pour le contentement et la récompense de leurs frères et de leurs semblables.
Ce serait, dit Mademoiselle Snevellicci, un coup terrible pour moi, je l'avoue, de me voir obligée à rompre mes vieilles relations et tout ce que vous voudrez dans ce genre-là. Mais je me soumettrai, ma chère. Vous pouvez en être sûre.
Et moi aussi, dit Mademoiselle Lidruck.
Je bénirai plutôt le joug conjugal que je ne le maudirai. J'ai déjà tant fait de malheureux que j'en suis toute triste. C'est affreux, voyez-vous, de songer à cela.
Certainement, dit Mademoiselle Snevellicci. Mais voyez-vous, ma chère petite, nous n'avons que le temps de l'apprêter, ou nous serons en retard.
Grâce à ce sermon pieux, et peut-être aussi à la crainte de se mettre en retard, la fiancée put supporter sans trop d'émoi la cérémonie de sa toilette de mariée. Après quoi, pour affermir ses membres délicats et lui donner une démarche plus assurée, on lui administra, par dose alternative, quelques tasses de thé fort et quelques petits verres d'eau-de-vie.
« Eh bien, vous trouvez-vous un peu mieux, ma bonne amie ?» demanda Mademoiselle Snevellicci.
« Oh, Lilivic !» cria la fiancée. « Si vous saviez toute la grandeur du sacrifice que je vais faire pour vous !»«
Va, va, ma chère, il le sait bien, et il ne l'oubliera pas !» dit Mademoiselle Lidruck.
« En êtes-vous sûre ?»
cria toujours Mademoiselle Petowker, qui montrait réellement de grandes dispositions pour jouer la comédie.
« En êtes-vous bien sûr ? Croyez-vous que Lilivic se le rappellera toujours ? Toujours ? Toujours ? Toujours ?»
Personne ne peut dire où se serait arrêté ce transport de sensibilité si Mademoiselle Snevellicci n'avait pas annoncé au moment même l'arrivée d'une citadine. La fiancée fut tellement étourdie de cette nouvelle qu'elle réprima immédiatement divers symptômes alarmants qui continuaient d'être violents, courut à la glace pour donner à sa toilette un dernier coup d'œil et déclara avec calme qu'elle était prête à marcher au sacrifice. En conséquent, on la porta plutôt qu'on ne la conduisit à la voiture. Et là, on la soutint. Comme disait Mademoiselle Snevellicci, en lui faisant continuellement respirer un flacon de sel volatile et continuellement déguster un flacon de cognac, avec quelque autre stimulant de même nature. Tant qu'enfin, elles arrivèrent à la porte du directeur, déjà ouverte par les deux jeunes Crumless, qui portaient des cocardes blanches et qui s'étaient parés des gilets les plus distingués et les plus resplendissants de toute la garde-robe théâtrale. Les efforts combinés de ces deux messieurs et de ces filles d'honneur, assistés par le cocher, finirent par déposer Miss Petowker dans un état d'épuisement inquiétant, sur le palier du premier étage. Mais là, elles n'eurent pas plutôt rencontré les yeux de son jeune fiancé qu'elle se trouva mal, comme le voulait le décorum de la circonstance.
« Henriette Petowker !» dit le percepteur. « Allons, remettez-vous, ma belle amie !»
Miss Petowker eut la force de se cramponner à la main du percepteur, mais elle n'eut pas la force de dire un mot. Elle était trop émue.
« Quoi, je vous fais donc bien peur, Henriette Petowker ?» dit le percepteur.
« Oh non, non, non !» répondit la fiancée.
« Mais tous les amis, tous les chers petits amis des jours de ma jeunesse, les abandonner tous, quel coup terrible !» Après ces expressions générales de chagrin, Miss Petowker se mit à compter un par un les chers petits amis des jours de sa jeunesse, en invitant chacun de ceux qui étaient présents à son tour à venir l'embrasser. Ce n'était pas tout. Elle se ressouvint ensuite que Madame Crumless avait été pour elle plus qu'une mère. Après cela, que Monsieur Crumless avait été pour elle plus qu'un père. Après cela, que les petits Crumless et Mademoiselle Nina Crumless avaient été pour elle plus que des frères et des sœurs. Tous ces souvenirs variés, avec accompagnement d'embrassades, ne laissèrent pas de durer longtemps. Il fallut ensuite qu'on les menât à bon train, à l'église, pour réparer le temps perdu. La file de voitures se composait de deux citadines. Dans la première était Mademoiselle Bravassa, la quatrième fille d'honneur, Madame Crumless, le percepteur et Monsieur Foller, qu'il avait pris pour témoin dans cette occasion. Les autres voitures possédaient la fiancée, Monsieur Crumless, Mademoiselle Snevellicci, Mademoiselle Lidrouk et le phénomène. Les costumes étaient magnifiques. Les filles d'honneur étaient toutes couvertes de fleurs artificielles et le phénomène en particulier disparaissait, presque tout entier, sous le bosquet portatif dans lequel elle était enchâssée. Mademoiselle Lidrouk, qui avait une tournure d'esprit un peu romanesque, portait sur le sein la miniature d'un officier général inconnu qu'elle avait acheté à bon marché quelques jours avant. Les autres dames étalaient des articles éblouissants de bijouterie d'imitation, mais une imitation qu'on aurait juré vraie. Quant à Madame Crumless, elle posait dans tout l'éclat de sa majesté tragique, attirait l'admiration de tous les passants. Cependant, je ne sais pas si la mine de Monsieur Crumless n'avait pas encore quelque chose de plus frappant et de mieux approprié à la circonstance que tous les autres membres de la compagnie. Monsieur Crumless, qui représentait le père de la fiancée, avait eu l'idée heureuse et originale de se composer pour son rôle un costume particulier. Il s'était d'abord affublé d'une perruque de théâtre dans le style et sur le modèle de celle qu'on connaît généralement sous le nom de perruque de Monsieur Pigeon, en harmonie avec un habillement complet de drap tabac du siècle précédent, des bas de soie gris et des souliers à boucles. Pour mieux entrer dans l'esprit de son rôle, il avait pris le parti de se montrer très affecté. Et par conséquent, lorsque le cortège passa sous le porche de l'église, les sanglots de ce père sensible fendaient si bien le cœur que le bedeau lui proposa de se retirer un moment dans la sacristie pour se remettre en buvant un verre d'eau avant le commencement de la cérémonie. Ce fut un beau spectacle de voir la procession se développer pour aller au chœur. La fiancée et ses quatre filles d'honneur formant un groupe convenu et répété d'avance. Le percepteur, suivi de son témoin qui modelait sur lui sa démarche et ses gestes de manière à faire mourir de rire quelques artistes de ses amis placés dans la galerie. Monsieur Crumless marchait d'un pas faible et débile, et Madame Crumless, au contraire, avançait de ce pas de théâtre composé d'une grande enjambée et d'une halte alternative.
Jamais vous ne vîtes spectacle où il y eut plus d'ensemble.
La cérémonie ne fut pas longue, et quand toutes les personnes présentes eurent signé le registre, ce que M. Crumless ne put faire à son tour sans commencer par essuyer avec soin, avant de se la mettre sur le nez, une immense paire de lunettes, on revint déjeuner avec ardeur. Là, on retrouva Nicolas qui attendait le retour.
« Allons, vite !» dit Crumless qui avait donné un coup de main à Madame Gruden pour le service.
Et, par parenthèse, il avait fait plus de frais que ne s'attendait le percepteur, qui n'en était pas plus content.
« Déjeunons, déjeunons !»
Il n'eut pas besoin de le dire deux fois. La société s'étouffa à se presser contre la table du mieux qu'elle put et se mit à l'œuvre sans tarder. Mademoiselle Petowker, rougissant toutes les fois qu'on la regardait et mangeant à mort toutes les fois qu'on ne la regardait pas. Quant à Lily vit qu'il travaillait avec la froide résolution d'un homme qui s'est dit que, puisque c'est lui qui paiera toutes les bonnes choses, il est de son devoir d'en laisser le moins possible de reste pour les Crumless.
« N'est-ce pas que c'est bientôt fait ?»
dit M. Foller au percepteur en se mettant les coudes sur la table pour lui adresser cette question.
« Qu'est-ce qui est bientôt fait, monsieur ?»
demanda M. Lillivic.
« Ce nœud-là, ce nœud qui vous rive à votre femme !» répondit M. Foller. « Ce n'est pas long, hein ?»«
Non, monsieur, » répondit M. Lillivic, rouge de colère.
« Ce n'est pas long. Eh bien, après ?»
« Oh, rien !» dit l'acteur. « Si ce n'est que ce n'est pas plus long que de se pendre !»
Monsieur Lillivic posa sur la table son couteau et sa fourchette et promena autour de lui sur ses convives un regard d'indignation et d'étonnement.
« Se pendre !» répéta Monsieur Lillivic.
Profond silence, pétrification générale en voyant l'inexprimable dignité de Monsieur Lillivic.
« Se pendre !» cria encore une fois M. Lillivic. « Serait-ce un parallèle que vous entendriez établir ici entre le mariage et la pendaison ?»«
Le nœud coulant, vous savez !» dit M. Foller un peu dans ses petits souliers.
« Le nœud coulant, monsieur ?» reprit M. Lillivic. « Qu'est-ce qui ose me parler de nœud coulant et d'Henriette Petow ?»«
Lillivic ! Lillivic !» lui souffla M. Crumless.
Et d'Henriette Lillivic à côté l'un de l'autre, dit le percepteur.
Quoi, dans cette maison en présence de monsieur et madame Crumless, qui ont élevé une famille, modèle de talent et de vertu, pour en faire des anges de phénomène, qu'on viendra nous parler de nœuds coulants ?
Foller, dit monsieur Crumless, croyant qu'il était dans la décence de son rôle de se montrer touché de cette allusion à sa personne et à celle de son épouse.
« Je ne m'attendais pas à cela de votre part !»«
Tiens, vous aussi !» dit l'acteur infortuné.
« Ah ça ! Et qu'ai-je donc fait ?»«
Ce que vous avez fait, monsieur !» cria monsieur Lillivic. « Vous avez visé la société au cœur !»«
Et vous avez du même coup blessé les meilleurs et les plus tendres sentiments !» ajouta Crumless, fidèle à son personnage de père noble.
« Et les liens les plus importants et les plus estimables de l'ordre social !» dit le percepteur.
« Ne coulant, comme si le mariage était un piège où l'on se fait prendre, attraper, lié par la patte, au lieu d'en faire un engagement réciproque, libre et glorieux. »
« Mon intention n'était pas de vous dire que vous aviez été pris au piège, attrapé et lié à la patte, répondit l'acteur.
J'en suis fâché. Que voulez-vous que je vous dise ?
Et vous avez des raisons de l'être, monsieur, continua Lillivic. Et je suis charmé de voir qu'il vous reste encore assez de bons sentiments pour cela.
Cette réplique dut devoir terminer la querelle. Mais madame Lillivic avait réfléchi qu'elle ne pouvait pas trouver une meilleure occasion. Maintenant que l'attention de la compagnie n'avait plus d'autres objets, pour verser des torrents de larmes et réclamer les soins des quatre filles d'honneur qui coururent en effet à son secours. Seulement ce ne fut pas sans quelque confusion. Car la chambre étant très petite et la nappe très longue, le premier mouvement de ces dames entraîna un régiment d'assiettes de la table au parquet. Cependant, sans tenir compte de cette circonstance, Madame Lillivic se refusa à rien entendre avant qu'on eût pu jurer aux deux champions que les choses n'iraient pas plus loin, ce qu'ils consentirent à faire après une défense honorable. Et, à partir de ce moment, Monsieur Follet resta à bouder sur sa chaise, se contentant de pincer Nicolas à la jambe toutes les fois que l'autre disait quelque chose. C'était une manière d'exprimer son mépris, et pour la personne, et pour le sentiment de l'orateur. Il y eut ensuite un grand nombre de discours prononcés, les uns par Nicolas, les autres par Crumless, d'autres par le percepteur. Chacun des fils Crumless fit le sien par forme de remerciement. Le phénomène, au nom des filles d'honneur, en adressa un aussi à la mariée, et c'est celui-là qui fit verser des larmes à Madame Crumless. On chanta un peu. Mademoiselle Lidrouk et Mademoiselle Bravassa se livrèrent à cet exercice, et vraisemblablement on ne s'en serait pas tenu là, si le cocher de la citadine, qui attendait à la porte pour emporter l'heureux couple à l'endroit où il devait prendre le bateau à vapeur de Ride, n'avait pas fini par envoyer un message péremptoire déclarant que, s'il ne venait pas tout de suite, il ne manquerait pas d'exiger 1 franc 80 centimes en sus du prix convenu. Cette menace effrayante fut le signal de la séparation. Après les adieux les plus pathétiques, M. Lillivic et son épouse partirent pour Ride, où ils devaient passer le lendemain et le surlendemain dans une retraite absolue, accompagnés seulement de l'enfant phénoménal qui avait été choisi, sur la demande expresse de M. Lillivic en qualité de fille d'honneur accompagnateur. La vérité est que M. Lillivic s'était assuré, en la demandant de préférence à tout autre, que les gens du bateau à vapeur, trompés par sa petite taille, ne lui feraient payer que 1/2 place. Comme c'était un jour de relâche, M. Crumless manifesta l'intention de ne pas quitter la place, que l'on eût raison de tout ce qui restait à boire. Mais Nicolas, qui avait à jouer le lendemain soir le rôle de Roméo pour la première fois, réussit à s'esquiver dans un moment de confusion déterminé par le développement inattendu des symptômes d'ivresse les moins équivoques de la part de Madame Gruden. En désertant ainsi le poste, il ne céda pas seulement à son goût, mais il n'était pas sans inquiétude sur le compte de Smic, qui avait à remplir le rôle de l'apothicaire et qui n'avait encore pu réussir à se mettre rien dans la tête de cette création de Shakespeare, si ce n'est l'idée générale et vague qu'il avait bien faim. Quant à cela, il avait appris avec une merveilleuse facilité, grâce sans doute aux vieux souvenirs de Dodboys Hall. « Je ne sais plus que faire, Smic, » dit Nicolas, posant là le livre. « J'ai peur, mon garçon, que vous ne puissiez jamais l'apprendre par cœur. »«
J'en ai bien peur aussi, » dit Smic en secouant la tête. « Je crois pourtant que si vous... Mais ce serait bien ennuyeux pour vous. »
« Quoi ? » demanda Nicolas. « Ne vous inquiétez pas pour moi. »«
Je crois, » dit Smic, « que si vous vous donniez la peine de me dire par de petits morceaux, en me le répétant bien des fois, à force de l'entendre de votre bouche, je finirais par être capable de m'en souvenir. »«
Croyez-vous ? » s'écria Nicolas.
« Eh bien, voyons qui se lassera le premier. Ce ne sera pas moi, Smic, je vous en avertis. »
Commençons donc. Qui est-ce qui m'appelle si haut là-bas ?
Qui est-ce qui m'appelle si haut là-bas ?
Dit Smic.
Qui est-ce qui m'appelle si haut là-bas ?
Répéta Nicolas.
Qui est-ce qui m'appelle si haut là-bas ?
Cria Smic. Et ils continuèrent ainsi, bien des fois, à se demander qui est-ce qui les appelait si haut là-bas, tant qu'enfin, Smic, ayant appris cette phrase par cœur, Nicolas passa à une autre. Puis, il se hasarda à en dire 2 à la fois, puis 3, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le pauvre Smic, à minuit, découvrit avec une joie inexprimable qu'il commençait réellement à se rappeler quelque chose de son auteur.
Le lendemain, de bonne heure, ils commencèrent sur nouveau frais, et Smic, rendu plus confiant par les progrès qu'il avait déjà faits, en fit de plus rapide encore et travailla de meilleur cœur. À mesure qu'il commençait à retenir assez fidèlement les mots, Nicolas lui montrait les gestes. Il lui apprenait à entrer sur scène, les deux mains étalées sur son estomac, et à le frotter de temps en temps, conformément à la tradition suivie dans les pantomimes des théâtres, pour indiquer au public qu'on voudrait bien avoir quelque chose à manger. Après la répétition du matin, ils se mirent encore à l'ouvrage, sans s'arrêter, excepté pour dîner sur le pouce, jusqu'à l'heure de la représentation. Jamais maître n'eut d'élève plus appliqué, plus humble, plus docile. Jamais élève n'eut de maître plus patient, plus infatigable, plus sérieux et plus bienveillant. Au théâtre, quand ils furent costumés, Nicolas recommença ses instructions et les renouvela chaque fois qu'il n'était pas sur scène. Il ne perdit pas ses peines, car si Roméo fut accueilli par des applaudissements chaleureux et honoré d'une faveur universelle, Smic aussi, de son côté, fut déclaré un vrai prodige par les acteurs aussi bien que par les auditeurs, qui le proclamèrent, tout d'une voix, le prince des apothicaires.